Mémoire vive,
présentée par Eve Cheftel,
préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. 1000 piqûres de moustiques font plus de mal qu'un grand coup sur la tête. J'observe, je note les piqûres de moustiques. Écrit Victor Klemperer en 1942, dans ce qui deviendra après-guerre, LTI, la langue du Troisième Reich, carnet d'un philologue. Phrase qui témoigne de l'immense modestie de cet homme et aussi de son humour, puisque l'on sait trop bien aujourd'hui de quelle souffrance désigne en réalité cet euphémisme. Bonjour Stan Neumann.
Bonjour.
En 2003, vous avez réalisé « La langue ne ment pas », qui est précisément l'adaptation des carnets de Victor Klemperer, film qui a eu un grand succès en France et qui a reçu le Grand Prix international du documentaire de l'URTI en 2004, hein, donc une des récompenses les plus prestigieuses dans la catégorie du documentaire, qui a été également beaucoup montré à l'étranger. Il va être diffusé de nouveau dans le cadre du festival consacré à Nourrit Aviv le 14 novembre au Centre Georges Pompidou, donc dans le cadre d'une rétrospective. Et c'est pour cette raison que nous vous avons invité à nous reparler de ce film. Je rappelle que Victor Klemperer, né en 1880, était fils d'un rabbin converti au protestantisme. Il fut l'un des rares juifs allemands à avoir survécu pendant toute la durée du régime. Et il nous livre avec ce carnet que vous avez adapté à la fois un témoignage unique sur ce qu'a pu être la vie quotidienne d'un juif en Allemagne sous le régime hitlérien, mais aussi des notes, des éléments d'appréciation de la langue allemande. J'aimerais savoir comment vous avez découvert ce livre pour la première fois et pourquoi vous avez décidé de vous lancer ce défi qui est de réaliser un film documentaire sur un livre, qui plus est un livre qui a pour objet la langue, les mots, le langage. Donc ce n'est pas vraiment une matière a priori cinématographique.
Oui, mais ça ne m'a jamais inquiété. Moi, j'ai toujours estimé que si quelque chose me touchait, je devais être capable d'en faire un film. Voilà. Donc, ça,
quel que soit le sujet, trouver les moyens les plus
voilà,
adaptés.
Et j'ai une approche toujours relativement simple. Je me dis, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible de le faire simplement. Klemperer. J'ai découvert LTI, donc Lingua Tertii Imperii, parce que il croyait naïvement, ça c'est des lubies de professeur, il croyait naïvement qu'en donnant un titre latin à ces brouillons, la Gestapo ne comprendrait pas de quoi il s'agit. Donc le projet s'appelait tout le temps LTI parce qu'il était sans arrêt perquisitionné par la Gestapo. Là, on parle des années cauchemardesques où il arrive à survivre à Dresde en tant que juif dans des conditions épouvantables. Et donc, LTI, c'est un mot de code dont
D'accord.
il pense que la Gestapo est trop stupide pour le décoder. Langue du Troisième Reich, Lingua Tertii Imperii. Donc, j'ai découvert le livre à travers Jean-Pierre Fay. Je pense que c'est dans un texte de Jean-Pierre Fay que j'ai découvert l'existence du livre. J'ai lu le livre, qui m'a énormément touché, surtout parce que j'y voyais à l'époque, et je pense encore aujourd'hui, un livre non pas du tout historique, mais un livre qui parlait exactement du temps présent. Et puis ensuite, ce qui a été vraiment l'élément déclencheur, c'est l'apparition des journaux de Klemperer, dans lesquels est contenue toute la matière de son étude sur la langue nazie, et en même temps la chronique de la vie quotidienne d'un juif de 33 à 45.
D'accord. Ah oui, voilà. Donc votre film s'appuie sur ces
Mon film non seulement s'appuie sur les deux matériaux, mais en plus légalement, ça c'est des histoires de l'éclatement, enfin de la disparition de la RDA, ce n'est pas le même éditeur qui possède les journaux.
D'accord.
Qui ont été publiés après et qui en France ont été publiés au Seuil, et LTI qui a été publié en Allemagne démocratique avant qu'ils s'aperçoivent que l'analyse de la langue totalitaire les concernait aussi directement et que le livre soit mis sous...
Ah oui, oui, vraiment oui.
Était publié en 47. C'est juste avant le début de la RDA. Et
d'accord.
Après, c'est devenu un livre fétiche pour les dissidents, mais il n'a jamais été réédité, évidemment. Et j'ai découvert l'existence des journaux. Et j'ai vu un truc qui m'a énormément touché, qui est la description du réel. C'est-à-dire d'un côté Il y a ce travail qu'il fait sur qu'est-ce que c'est la langue nazie. Mmh. Et de l'autre côté, il y a une description, vraiment, ce que vous disiez tout à l'heure, les piqûres de moustiques, c'est-à-dire du réel le plus simple et le plus concret, et qui m'a fait ressentir, parce que j'ai toujours cru, que dans ces minuscules détails, il y avait beaucoup plus de charge émotive que dans les grandes déclarations pathétiques et dans les grandes lamentations pathétiques. Mmh. Alors ça, c'est mon côté juif allemand. Hein. Moi, je viens du côté maternel d'une famille prussienne. Mon grand-père avait la chaire de philo à Breslau jusqu'en 1933, donc c'est un peu le même... la même approche.
Vous voulez dire ce rapport objectif au réel.
Voilà, pas de pathos, dire les choses aussi simplement qu'elles sont, privilégier toujours la narration plutôt que le narrateur, tout ça qui est dans le journal de Klemperer, qui, dans les moments les pires, les plus cauchemardesques, 42-43, qui sont des moments où tout le monde meurt autour de lui, hein, et où il se demande chaque matin s'il va vivre jusqu'au soir, dans ces moments-là, il continue à décrire très très précisément les moindres trucs, et puis il continue à faire des blagues. Mmh. Continuer à faire des blagues, ça c'est tout à fait étonnant. Donc j'ai vu que avec le journal, je pouvais faire un film presque double, c'est-à-dire à la fois récupérer tout le matériau de son travail sur la langue du Troisième Reich et la chronique de ce que c'est cette extraordinaire aventure de la survie. Les deux sont intimement liés parce que Klemperer, quand il est chassé de l'université en 1934, s'ennuie. Et cherchant à s'occuper, il se lance dans un travail sur la langue nazie.
D'accord.
Chez lui, voilà. Et après, il va réussir, parce que souvent
parce
la question...
Qu'il est philologue, c'est assez naturel, finalement, voilà. Qu'il prenne comme objet d'étude la langue.
Il y a une anecdote très drôle dans le journal en 1935, pour montrer à quel point c'est un bonhomme quand même spécial. Il rencontre un de ses collègues juifs qui a été chassé comme lui de l'université et il note dans le journal « Je ne vais pas parler de mon travail sur la langue nazie parce que j'ai peur qu'il me vole le sujet. » Et ensuite, pendant tout le cauchemar qu'il va traverser, c'est ce travail-là qui va le porter. Mm-hmm. Ça et son journal. C'est-à-dire le fait de témoigner. C'est le titre français du journal, c'est « Je veux témoigner jusqu'au bout ». Donc le fait de noter ça, parce que ce qu'il dit dans le même passage que l'histoire des moustiques, il dit les très grandes choses, tout le monde les connaît, et c'est des petites choses qu'on oublie. Donc il veut témoigner et en même temps aller au bout de ce travail parce que, en tant que philologue, il pense que s'il arrive à comprendre les mécanismes particuliers de l'allemand tel que les nazis le parlent, il arrivera à percer le mystère du nazisme, qui pour lui est un truc totalement incompréhensible. Parce que Klemperer, jusqu'à très 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 tard, va dire « mais moi je suis allemand ». C'est moi qui suis allemand, c'est pas eux. Voilà. Donc pour
c'est
lui,
le titre de votre film, donné à votre film, c'est La langue ne ment pas.
La langue ne ment pas, oui,
parce que... C'est vous, c'est pas lui d'ailleurs.
Non, si vous voulez, non, c'est moi, c'est, bon, ça, c'est une histoire un peu compliquée, mais c'est une devise qu'il avait et qui veut dire deux choses.
C'est pas la terre qui ment pas, c'est la langue.
Voilà, la langue est plus vraie que le sang, ça c'est le premier truc, c'est un truc sur lequel il insiste énormément, on est ce qu'on parle, et si on parle mal, c'est qu'il y a quelque chose qui va mal. Et l'autre chose, c'est la langue, même si on essaye de mentir, dira toujours la vérité. Donc quand il prend la langue nazie, il la prend aussi, donc ce qu'on appelle la langue nazie, en fait, c'est la manière dont le nazisme a tordu l'allemand, a défiguré l'allemand. Quand il s'attaque à ça, c'est l'idée que dans ce qui est dit, il va comprendre ce que les gens ne comprennent pas. Parce que là, il y a un truc très particulier et qui nous concerne aussi très directement, c'est que autour de lui, personne ne se donne la peine d'écouter.
Tout à fait. Et d'ailleurs, on pourrait dire que nous-mêmes, On n'écoute pas. Et vous, vous donnez vraiment à entendre justement ces discours. J'ai l'impression de les avoir entendus pour la première fois avec ce haut-parleur souvent qui revient.
Mais c'était le but du film, parce que très souvent on s'arrête à une image caricaturale du nazisme avec Hitler en train de trépigner, etc. Et on n'entend pas les mots. Et si on écoute les mots, on comprend des choses qui nous concernent très très directement, parce que certains de ces mots réémergent cycliquement.
Il y a en particulier une archive sonore que je trouve absolument fascinante. Peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus. Parce que je ne sais pas exactement de quand elle date. On entend, 42, on ne voit pas. Hein, c'est 42.
42, 43.
On entend 43. Un responsable nazi.
Himmler.
C'est Himmler, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors, c'est une archive. Alors, ça, c'est vraiment, une fois de plus, la distorsion. Hein, c'est-à-dire, on a l'habitude, dans ce que la télévision ou le cinéma montrent du nazisme, d'en rester justement aux images comme ça.
Oui, des grandes foules en liesse, des parades,
voilà, les livres qu'on brûle, etc. Et on oublie qu'il y a une énorme masse de documents sonores qui sont d'une très grande richesse. Et le discours d'Himmler a été enregistré, je ne sais pas comment. La bande vient de Suède, mais elle était connue, en fait, elle a été produite au procès de Nuremberg. Et c'est le seul discours où un dignitaire nazi parlant devant un parterre de généraux SS reconnaît la réalité de l'extermination. Avec une phrase absolument terrible, qui fait froid dans le dos et qui en même temps fait beaucoup, beaucoup réfléchir, même une fois de plus pour aujourd'hui, où Himmler dit nous sommes en train d'écrire la page la plus glorieuse de notre histoire, virgule, une page qui ne devra jamais être écrite. Jamais rendu public. Hein. Voilà, donc c'est un texte, c'est un son absolument,
oui,
absolument terrifiant.
D'autant qu'il il parle des Juifs, là. Il parle, il ne se cache pas, il n'y a pas de...
Non.
Tous ces mots codés que décode d'ailleurs Klemperer.
Ce peuple a voulu nous exterminer, nous avons raison de l'exterminer, et nous sommes en train d'écrire la page la plus glorieuse de notre histoire, une page qui devra rester à jamais cachée. Ce serait paradoxal. Et glaçant. Et donc le but du film, c'était aussi ça, c'était d'arrêter de jouer avec les images d'Épinal et de donner aux gens à entendre ce que c'est une langue totalitaire, comme Klemperer avait essayé de le faire avec son travail. Qu'est-ce qu'est l'abîme, sur quel bouton elle appuie, et comment, d'une certaine manière, elle se perpétue sous toutes sortes de formes dans notre vie quotidienne. Ça, c'est aussi une chose qui m'intéressait beaucoup à l'époque. Klemperer, en 42 ou 43, donc à un moment absolument cauchemardesque, hein, à Dresde, décide de faire la liste de ce qu'il pense être les sources intellectuelles de la langue nazie. Donc, il prend une feuille de papier, il commence, et il fait la révolution bolchevique, pas faux, le langage du militarisme allemand, et le troisième truc, le langage de la publicité américaine.
C'est très frappant, effectivement.
C'est étonnant. Et ça fait réfléchir, une fois de plus, sur le monde dans lequel on vit, nous, maintenant. Hein.
Oui, vous parlez d'ailleurs de mode verbal qui court-circuite la pensée et parle à notre place.
Oui.
Et lui est très sensible à ça, et c'est ça aussi que vous donnez à voir. En dehors de ces discours, vous avez... reconstituer en quelque sorte son studio, son bureau. Hein, je voulais dire, vous avez reconstitué en studio son espace de travail. Si bien qu'on a vraiment, nous, spectateurs, le sentiment d'être enfermés dans cette chambre. Et je voudrais savoir comment vous avez travaillé, parce qu'il y a un travail, je pourrais dire, un peu comme au théâtre, d'accessoiriste, en quelque sorte, dans votre film, avec cette machine à écrire, où il y a même l'éclair nazi, jusqu'aux touches.
Si vous voulez, à un moment, il y a eu un processus assez long entre le moment où j'ai décidé de faire le film, le moment où on a obtenu les droits du livre. Ça a été très très long avec l'éditeur allemand. Longtemps on pensait que c'était vraiment foutu, et après à un moment je me retrouve avec les droits, l'accord d'Arte, et je ne sais absolument pas comment faire, je ne sais pas, et je commence à travailler et je me dis au fond j'ai qu'à faire comme lui, je suis lui, et j'ai devant moi juste le petit espace rétréci et qui devient de plus en plus petit, sur lequel se rétrécit sa vie.
Puisque, qui correspond à une réalité, puisqu'il a été enfermé dans la maison des Juifs, voilà. Il ne peut plus sortir.
Il ne peut plus sortir et il n'a plus que cet espace-là.
Ses voisins, donc, les uns après les autres, sont déportés. Voilà.
Et donc, je me suis dit, ok, si j'ai ce petit espace-là, à l'intérieur de cet espace-là, je peux créer toutes sortes de choses qui correspondent à l'économie du film, parce que je n'ai pas beaucoup d'argent, et qui me permettent de développer le récit. Voilà, donc ça, c'est... travailler comme ça, assez simplement, avec l'idée qu'il y aurait, on ne voit jamais que l'empereur, mais par contre, Denis Lavant lui donne une présence magnifique. Donc il y a, voilà.
Il n'y a aucun contre-champ non plus, en fait.
Il n'y a pas de contre-champ, on ne le voit pas. Hein. Moi, je pense que
les archives filmiques, oui. qui est le dehors. Quoi. Enfin,
les archives sont là pour apporter les foules, le grand air et les grandes cérémonies nazies. Mmh. Mais lui, il est dans sa solitude, dans son espace de plus en plus rétréci. Et plus cet espace se rétrécit, plus il devient fort. Plus il est privé de liberté et de ce qui faisait sa vie de bourgeois intellectuel, plus il devient brutal avec les nazis, dans l'analyse qu'il fait sur leur mécanisme de pensée. Donc ça m'intéressait énormément, cette
et la page devient vraiment cet espace de liberté, finalement, enfin,
oui, bien sûr.
Qui s'ouvre sur...
Non seulement de liberté, mais de combat. C'est un bagarreur. Hein. Il y a des moments où on dit... mais pauvres nazis, quand même, ils se prennent des coups sur la tête sans arrêt par ce type. Qu'est-ce qu'il est méchant avec eux, finalement. Et si vous voulez, alors après, quand on fait un film comme ça, on est obligé de tout fabriquer, sauf la machine à écrire. Ça, c'est la machine à écrire, est une machine à écrire authentique. Mais tout ce qui apparaît comme manuscrit, affiche, objet, je suis obligé de tout refabriquer parce que c'est des objets de musée. Mmh. Donc, ils ne peuvent absolument pas être mobilisés sur un plateau de tournage. Donc, il y a eu un gros chantier petite main.
Parfois, il y a des choses très simples et je trouve très fortes. Par exemple, quand vous énumérez, quand Victor Klemperer énumère la liste des interdictions qui pèsent sur les Juifs, qui sont de plus en plus, contraignantes. Et vous avez choisi à chaque nouvelle interdiction d'accrocher une clé à un tableau qui bientôt se remplit de clés.
Posées, d'accord.
Ces clés, tout d'un coup, pour le spectateur, renvoient à des associations. C'est la clé des maisons perdues, c'est la clé qui renvoie à la condition des Juifs.
Mais c'était aussi une interdiction. Il devait rendre les clés, toutes les clés. Et elle est mentionnée, l'interdiction, mais elle est au milieu des autres. Elle n'est pas mise en tête.
D'accord.
Mais ça c'est des trucs, on réfléchit même pas.
Quand vous dessinez sur une carte, ça c'est aussi une manière que vous avez de faire aussi, de dessiner sur une carte les lieux où ils n'ont plus le droit d'aller, le trottoir de gauche, après ça va être le trottoir de droite, qui je trouve rendent compte de l'absurdité.
Mais alors là, j'ai eu une surprise avant-hier, parce que j'ai toujours, comme tout ce qui est dans le film, c'est des trucs que j'invente, parce que je les vois à un moment, et j'ai l'impression que je les ai inventés. Et moi, si vous voulez, j'ai été élevé à Prague, dans la Prague socialiste, et un des premiers films, des premiers films qu'on voyait môme, j'avais 4-5 ans, c'était Potemkin et Octobre. Et dans Octobre, Eisenstein, pour la préparation de l'insurrection d'Octobre, fait exactement la même séquence. Donc j'ai copié, mais je ne le savais pas.
C'est-à-dire sur les cartes.
Avec une carte en très gros plan. Et un crayon à papier.
D'accord.
En très gros plan qui a cette espèce de matérialité.
Oui, tout à fait. On entend
physique,
le crayon.
De la croix, voilà. Ouais. Et donc, mais je l'ai fait en toute innocence.
D'accord. Est-ce que, quelque part, vous seriez d'accord avec l'idée que Klemperer préfigure la sémiologie et même l'approche structuraliste qui triomphera dans les années 60 avec Roland Barthes. Est-ce qu'il y a quelque chose de mythologie avant l'heure, dans cette œuvre,
il y a ça, il y a quelque chose d'une version un tout petit peu plus mondaine de Benjamin, dans l'idée que la langue, c'est tout. ce n'est pas juste ce qu'on dit, c'est les couleurs des vêtements.
Les signes, quoi.
C'est les signes, c'est la pub, c'est la musique. Un dépassage de la langue ne ment pas. Enfin, un dépassage de LTI, les blagues. Un dépassage de LTI parle des fausses notes de la musique nazie et de façon très frappante. Donc, il a une vision du langage qui est extrêmement large et que je trouve tout à fait passionnante.
Est-ce qu'il a eu une postérité justement dans le monde académique, puisque vous nous avez dit un peu en RDA, enfin il a été un livre de référence pour les dissidents. Mais sinon,
Alors je pense, aujourd'hui on considère qu'il a inauguré la réflexion sur les langues totalitaires.
D'accord.
Maintenant, Klemperer lui-même, ses racines intellectuelles, ce qui le rend encore plus touchant à mes yeux, c'est des racines idéalistes. C'est un philologue idéaliste, donc d'une certaine manière, cette espèce d'attention.
Ils se sont pas tellement juifs, hein, d'ailleurs. Enfin,
ils se sentent allemands. Le judaïsme lui est.
Il est marié donc à une Allemande.
C'est grâce à elle qu'il survit en partie, mais il a pas de descendance théorique parce que ce n'est pas un théoricien, en fait. Il a une énorme influence sur tous les gens qui l'ont lu, mais il ne crée pas d'école.
Parce qu'après-guerre, il a...
C'est un chiffonnier, c'est un bricoleur. Ouais. Après-guerre, bon, ça c'est une autre histoire que je n'aborde pas dans le film, d'ailleurs. Le dernier tome de ses journaux s'appelle « Assis entre toutes les chaises ». Klemperer, il fait quelque chose de très très original. À la fin de la guerre, il est à Munich et il décide de revenir en zone soviétique parce qu'il estime que seul le Parti communiste et les soviétiques veulent mener sincèrement la dénazification. En juin, juin 45, il a l'impression que l'Allemagne de l'Ouest ne va pas dénazifier. Donc il retourne là-bas délibérément. Et il devient une figure culturelle de la RDA.
D'accord.
Ses journaux, très vite, commencent à parler de la langue du Quatrième Reich, pratiquement dès juin, juillet. Donc, il voit très bien que la langue parlée par le Parti communiste allemand
et par les soviétiques,
c'est la même. Il le note, pour lui, c'est terrible. Il entend de nouveau le mot fanatique. Nous sommes des combattants fanatiques.
C'est LQI.
Et par contre, il décide, au nom de la solidarité antifasciste, de ne pas le dire.
D'accord.
Donc il va se taire sur ça jusqu'à sa mort.
C'est poignant.
Il faut imaginer aussi qu'il doit être épuisé. 13 ans de ce cauchemar nazi, il est épuisé. Il avait l'impression qu'il avait réussi à survivre et il voit que ça recommence d'une autre manière.
Ouais.
Je pense tout simplement là, il n'en peut plus. Quoi.
Il n'a plus le courage de se battre encore.
Donc il se tait, il devient une sommité culturelle, ce que les Allemands de l'Ouest ne lui ont jamais pardonné.
D'accord.
Jamais.
Donc le livre n'a été publié que au moment dans l'Allemagne réunifiée, c'est ça?
Non, c'est-à-dire LTI, La langue ne ment pas, a été publié juste avant la création de la RDA in extremis. In extremis, 6 mois plus tard, il ne serait pas passé tellement il est transparent sur le totalitarisme. Et les journaux ont été publiés en 93, après sa mort. Et ils sont devenus un best-seller en Allemagne. Parce que les Allemands aimaient beaucoup cette histoire du juif sauvé par sa femme, la femme formidable, magnifique. Et dans les films que les Allemands ont fait sur Klemperer, il y en a plusieurs, il n'y a jamais un mot sur son travail sur la langue nazie. Tout est sur l'histoire d'amour avec Eva, tout ça. Voilà. C'est terrible. Ça, c'est complètement nié.
Sur l'aspect romanesque.
L'aspect romanesque et l'aspect réconciliation. Il y a des critiques à l'époque qui disaient que c'était comme le journal d'Anne Frank, par la texture que ça décrit de ce que c'est la vie quotidienne dans ces situations-là. Mais son travail théorique et sa virulence est soigneusement gommée. Il a cette phrase extraordinaire qui m'a toujours étonné. Je me dis, comment on peut faire des plaisanteries comme ça pour le nouvel an en 43, au moment où de porter le toast, ils sont 3-4 juifs survivants dans une cave. ils boivent de l'eau, je suppose. Et le toast de Klemperer, c'est Hitler est comme Barnum, comme un bon directeur de cirque. Il veut toujours essayer de faire ce qu'il ne s'est jamais encore fait. Comment on peut dire ça? Quel courage, quelle liberté aussi. Hein. Voilà.
Merci, Stan Neumann, de finir sur cette vite, on peut dire,
ouais.
Et de nous avoir fait entendre la langue, notre langue qu'on n'entend pas, et tous ces tics de langage, tous ces jargons qui, comme vous dites, court-circuitent la pensée et parlent à notre place. Votre film « La langue ne ment pas » sera diffusé, donc je le rappelle, le 14 novembre, dans le cadre de la rétrospective consacrée à l'œuvre de Nourit Aviv. Nous invitons d'ailleurs nos auditeurs à aller au centre Georges Pompidou pour voir les films diffusés dans le cadre de ce festival. Et je vous dis à dimanche prochain. C'était Mémoire Vive. Deux adresses pour nous retrouver: www.radio-rcj.info, www.mémoirevive au pluriel.net.